Bienvenue dans le cahier de guérison de la semaine 4 concernant la loi de la lumière. Donc c'est parti pour cet auto-coaching. Je rappelle que la lumière, c'est la conscience, hein, quand on met en lumière des choses, on allume les pièces de notre château intérieur. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on chasse l'obscurité, on donne du sens. Et ça, c'est vraiment une loi de guérison, le sens. Alors en préambule, j'ai noté « Le bon souverain, il fait preuve d'une puissante lucidité, il connaît bien son royaume, il connaît son château intérieur, il connaît tout son royaume, il comprend les enjeux et il en saisit les subtilités, et il sait réguler les territoires et les énergies pour le bien du pays tout entier. Grâce à la connaissance avisée de son royaume, de ses besoins et de ses enjeux, il pourra recréer les équilibres. » La loi de l'équilibre, c'est une loi future qui va arriver ensuite, mais le feu engendrant la terre, c'est une loi de la terre après. Rien ne lui échappe au souverain. Ainsi, tout événement a quelque chose à lui apprendre sur la résilience de son royaume, s'il lui manque certaines choses, comment il devra faire ensuite. Enfin, tout ce qui se passe dans son royaume lui apprend quelque chose et lui apprend à essayer de gouverner au mieux, à créer des lois qui soient plus justes, qui soient plus équitables, à mieux se protéger s'il s'est fait envahir facilement, etc. En fait, on pourrait symboliser ça par le système immunitaire, par exemple. Nos défenses, etc. Ok ? Donc le bon souverain, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce cahier de guérison. Alors, premier exercice qui peut paraître évident, mais qui est loin de l'être, c'est juste allumer la lumière. Donc le but, c'est de faire une description précise de la situation de ta maladie, de tes maux. Donc après, selon les gens, c'est différent, hein. Il y a des trucs qui sont installés, des trucs qui sont indolores, il y a des trucs... Donc là, c'est plus difficile de mettre en lumière quand c'est caché, mais en général, quand il y a une maladie qui est indolore et qui arrive, par exemple, on pronostique un cancer alors qu'on l'a pas... On diagnostique un cancer, on pronostique aussi en général quelque chose, mais on diagnostique un cancer et on l'a pas senti, ce cancer, c'est en faisant d'autres études, parce qu'il y avait d'autres symptômes. Bon, en fait, ce qui est important, c'est les autres symptômes, parce que si on arrive à un stade du cancer, en général, c'est parce que d'abord, on a éteint plein d'autres symptômes avec des antisymptômes, avec des médicaments, avec des opérations, où on enlevait le symptôme, on enlevait les champignons, sans ouvrir la fenêtre. Et donc après, il y a potentiellement des choses qui sont plus profondes encore dans le corps, donc plus cachées, plus sournoises, et qui font nous détruire à petit feu. Mais parce qu'il y a plein d'autres choses avant qui étaient visibles. Et encore une fois, c'est pas une saleté le cancer, c'est un truc qui est caché. Comme on a caché à notre conscience, on a caché des choses, il y a quelque chose qui est caché qui essaye de rétablir l'équilibre. C'est vraiment toujours dans ce jeu de miroir. Donc il y a d'autres choses à décrire, même si ce qui vous amène là, peut-être c'est difficile à décrire. Mais sinon, des fois, il y a des douleurs qui arrivent et qui repartent, qui sont spécifiques à un moment donné, etc. Et le but, c'est d'être très lucide sur comment ça arrive et quand ça arrive. Donc, de vraiment le décrire et d'éviter de dire des jamais, des toujours ou des mots flous comme stress, malheur, confiance. Ça arrive quand je stresse. Alors c'est quoi stress? Il se passe quoi? Tu penses quoi quand tu stresses? Tu respires comment? Ça se passe à quel moment? Avec qui? Tout ça, c'est de la lucidité qui est... Imaginez, vous allez voir un thérapeute et vous lui dites « Oh, j'ai toujours ça quand je stresse » et qu'il ne vous pose pas de questions derrière et qu'il vous dise... Enfin, il n'a aucune information pour vous aider. Si c'est un bon coach, il va dire « Alors, c'est quoi stress? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que tu sous-entends par ce mot? À quel moment ça arrive? En présence de quelle personne? À quelle heure de la journée? » Enfin, il y a plein d'informations. Là, le but, c'est de faire le détective. Donc, de décrire précisément ce pourquoi vous êtes là avec votre cahier de guérison, de décrire précisément la situation. Il y a plein de mots valises comme ça qui veulent tout et rien dire, qui sont complètement flous, comme le bonheur et le malheur, comme la confiance. C'est quoi la confiance? Essayez juste de vraiment décrire le plus précisément possible. Donc, et là, il y a ces questions-là pour vous aider. Quand est-ce que tel ou tel symptôme apparaît. Comment est la douleur? Est-ce que c'est lancinant, profond, superficiel? Il y a des picotements, il y a de la brûlure. Ça vous paraît sec et chaud? Ça vous paraît humide et froid? Mais c'est plein d'indications tout ça. C'est des indications symboliques, c'est des indications en miroir. Et surtout, ça apporte de la lucidité et de la conscience. Donc après, avec des connaissances, vous pouvez apprendre de ce que ça sous-entend, de qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, avec la connaissance de la médecine chinoise, j'ai appris qu'avoir le bas du ventre froid, c'était pas une bonne chose, que c'était signe de fatigue. Et moi, je me suis rendu compte que dès que je mettais la main sur le ventre froid, le ventre était froid, pardon. Alors que normalement, ça doit être, selon les préceptes de la médecine chinoise, plus chaud en bas du ventre, ensuite sur l'estomac un peu moins chaud et sur le cœur encore un peu moins chaud. Et si c'est s'il y a une différence et qu'au contraire, c'est plus chaud par exemple sur l'estomac que sur le bas du ventre sous le nombril, eh bien c'est pas très bon. Donc il faut chauffer cette zone, soit avec des bouillottes par exemple, soit avec des moxa en médecine chinoise, donc des bâtons de moxa, d'armoise, qui vont chauffer à l'intérieur, qui vont réveiller cette zone. Et ça, bon, bah, c'est la connaissance et c'est l'observation. Donc, l'observation, tiens, je me rends compte que j'ai une zone qui est froide. Connaissance, ah bah tiens, c'est pas une bonne chose, je vais réchauffer cette zone. Maintenant, dans l'équilibre, dans la loi de l'équilibre, on va voir que le but, c'est d'être chaud partout, c'est de rééquilibrer la conscience partout, qu'il n'y ait pas de tension, etc. Toujours créer l'équilibre, donc. Même sans connaissance, on va le faire avec la loi de l'équilibre. Enfin, c'est une connaissance quand même, du coup. Mais voilà. L'idée, c'est de toujours être hyper précis sur ce qui se passe. Tiens, bah, c'est une zone qui est humide. Ah, comment je pourrais la sécher? Même dans le corps, tiens, pourquoi il y a des zones qui sont plus humides et d'autres plus sèches? Comment je peux jouer avec ça, etc. Ça, d'abord, il faut pouvoir amener de la lucidité. C'est primordial. Donc d'abord, exercice, on allume la lumière. Parmi les questions, qu'ai-je fait les jours précédents? Qu'est-ce que j'ai mangé, bu? Quel mouvement? Quelle rencontre? Quelles émotions? Quelles pensées? Etc. Que m'est-il arrivé? Donc je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit ceci, qui m'a dit cela. Ok, le lendemain, tiens, j'ai mal au dos, j'ai le dos un peu coincé. Ou la semaine d'après, des fois ça met un peu de temps à s'installer, mais c'est justement, c'est en faisant le détective. Donc moi, ce que je vous invite à faire là, c'est avec le cahier, c'est de faire le détective. Quelle est la situation le plus précisément possible et l'écrire. Donc, bah, vous appuyez sur stop, vous précisez, et c'est pareil, vous laissez un petit peu de page derrière ça, histoire de pouvoir y revenir de temps en temps, parce que dès que vous observez quelque chose, vous dites « Ah ouais, mais tiens, par exemple, j'ai mal au ventre le soir. » Ok, alors j'ai mal au ventre le soir, est-ce que c'est tous les soirs? Oui. Alors, est-ce qu'il y a un truc que je fais tous les soirs? Tous les jours, par exemple. Bah oui, tiens, par exemple, je reste beaucoup assis toute la journée. Tiens, alors, je vais faire un essai, je vais essayer un jour de rester moins assis, et de beaucoup plus debout. Est-ce que j'ai mal au ventre quand je suis resté debout dans la journée? Ah bah non, j'ai moins mal. Ah bah ouais, peut-être c'est juste je reste trop assis et c'est ballonné, et maintenant c'est bon, j'ai la solution à mon problème. C'est con, mais par exemple, moi, ça m'est arrivé, j'ai passé des années à essayer de travailler sur mon système digestif, à prendre des médicaments, d'abord allopathiques, puis ensuite bio, naturel, naturopathie, tout ça, juste pour me rendre compte qu'en fait, juste, je restais trop assis. C'était aussi con que ça, il fallait juste que le détective intérieur, il se dise « Ah, mais je reste trop assis, tiens, je vais travailler debout, donc je mettais ma chaise sur mon bureau et mon ordinateur sur ma chaise, et je pouvais écrire debout, et donc ne pas être tout le temps assis. Et dès que j'ai des trop longues périodes assises, et ben hop, je suis un peu ballonné. » Ok, alors il y a aussi ce que je mange, etc. Mais parce que tout est multifactoriel, rappelez-vous. On est adaptable à plus ou moins grande échelle en fonction de tous les facteurs qui nous demandent de l'adaptation. Mais il y a des choses flagrantes, quoi. Du jour au lendemain, j'ai arrêté d'être ballonné quand j'ai commencé à travailler plus debout et pas assis toute la journée. Et c'est pareil pour le dos. Si j'arrive à le bouger, etc., pas à créer bon, ça, on l'avait vu dans la liberté du mouvement, dans la loi de la liberté. Mais ça, pour ça, il faut être lucide. Il faut être vraiment le souverain qui observe tout, quoi, et qui note. Donc, vous allez le faire quotidiennement, notez tout ça, mais aussi laissez-vous quelques pages pour vraiment décrire précisément la situation, toutes les tensions qui s'installent dans votre corps, à quel moment, comment, pourquoi. Si vous n'êtes pas lucide, vous pouvez opérer aucun changement derrière. C'est pareil, logique, mais voilà. Ok, donc ça, pause et on passe à l'exercice 2. Exercice 2. Il est un petit peu long celui-là parce que l'intérêt c'est de se regarder dans le miroir. Donc se regarder dans le miroir, c'est toujours se poser la question, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ce que je suis en train de vivre dit de moi? Je suis 100% responsable de ma vie. À partir de là, quoi qu'il arrive autour de moi, qu'est-ce que ça dit de moi? Comment ai-je permis à cela d'exister? Comment ai-je permis à cela d'exister? Par exemple, quel que soit, des fois on subit des violences institutionnelles ou structurelles, de racisme, de genre, etc. Mais la question c'est, qu'est-ce que cela dit de moi? Comment je permets à cela d'exister? Bien sûr qu'il y a des violences institutionnelles, sociologiques, social, c'est-à-dire que le sociologue va étudier ça, il y a des choses qui font qu'il y a un poids, mais comment moi, je me sors de ça, comment moi, je contribue à ces croyances-là, comment moi, je me sous-estime, comment moi... Enfin, le changement, il doit passer par l'intérieur pour ta guérison. Sinon, tu peux toujours lutter, tu feras la victime et tu n'y arriveras pas. Parce que tu luttes contre le sens en étant victime. Même un accident, comme je note là, tu n'es pas victime. Quelqu'un t'est rentré dedans, tu n'es pas victime. En quoi? Comment t'as permis à ce que ça existe? Il y a toujours un apprentissage. Et là, tu mets du sens et tu joues et tu apportes la guérison. Sinon, tu le fais pas. C'est un point essentiel, ça. Je sais que parmi vous, parmi nous tous, tout le temps, enfin moi je l'ai été, donc je sais bien que forcément il va y avoir des résistances par rapport aux 100% responsables. Mais dès qu'on joue à ce jeu-là, mais on change tout, vous allez changer votre guérison si vous vous dites plus que c'est pas la faute à ma chance, ou la faute à quelqu'un, ou la faute au passé. Ça c'est le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas de sens, que ça soit juste de l'injustice et qu'on veuille lutter contre l'injustice. Donc veuille lutter contre le passé, ça sert à rien, il n'existe plus. Lutter contre l'autre, c'est une perte de temps phénoménale et lui va vouloir se défendre, etc. Enfin, non, il n'y a plus besoin de lutter. Ah, on accepte la citation, je suis 100% responsable. Et ça va changer tout, ok? Donc, pour répondre à cette question qui est en titre, qu'est-ce que ça dit de moi? Comment ai-je permis à cela d'exister? Pour répondre à cette question, j'ai fait des sous-questions. C'est-à-dire, par exemple, quelle peur cela me permet-il d'éviter? Donc ça, c'est les compulsions. D'accord? Pour m'aider, par exemple, je vais me dire, cette maladie, ou ce problème de santé, qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Qu'est-ce que ça m'empêche de vivre? Est-ce que par hasard, ça ne me permettrait pas d'éviter certaines peurs? Par exemple, moi, j'ai été... À 13 ans, je suis parti un mois en colo. C'était assez difficile. Il y avait déjà quelqu'un qui s'était suicidé devant moi. Bon, voilà. Il y avait d'ailleurs, après, j'avais fait des furoncles et tout. J'avais 13 ans. En plus, c'était que des plus grands. Donc, c'était des 14-18 ans. Et les 12-14 ans, il n'y avait que moi d'inscrits. Donc, il n'y avait que moi dans la colo. De 13 ans, le plus jeune, et plus tout ce qui nous arrive dans la colo, etc. Enfin. Bon, à la fin, je le vivais mal quand même. Même si j'avais envie de voyager, c'était chouette, c'était en Italie. L'année d'après, mes parents, comme ils savaient que j'aimais bien, j'avais envie de voyager et tout, et qu'ils avaient des prix, bon bref, je vous passe ma vie, mais c'est juste pour comprendre. Ils veulent m'envoyer en Grèce un mois, donc génial. Donc moi, en plus, à Grèce, j'adorais l'histoire et tout, la Grèce à l'époque, ça me plaisait. Mais... inconsciemment, j'avais peur et je voulais pas l'admettre parce que l'année d'avant, ça avait été tendu en fait. Mais je voulais pas admettre ça. Et qu'est-ce qui se passe? Deux jours avant de partir, je prends un trottoir en vélo et je me casse le coude. Voilà. Et là, la question c'est, qu'est-ce que ça m'empêche de vivre? Bah, ça m'empêche de partir en voyage. Et est-ce que derrière, il n'y avait pas des peurs de partir en voyage? Bah si, il y avait des peurs. Voilà. Inconsciemment, j'ai créé l'accident pour ne pas partir et pour assumer. Parce qu'en fait, bah, du coup, je pouvais pas partir. Et enfin, je pouvais partir d'ailleurs, mais ma mère m'a dit, est-ce que du coup tu veux partir ou pas? Parce que du coup, avec le bras cassé, je dis, oh, bah non, je vais rester là. Enfin, ça m'a convenu. Alors, en fond, il y avait une part de moi qui regrettait, j'avais envie de découvrir la Grèce, mais j'avais peur, donc ça me convenait. Il y a toujours un bénéfice secondaire à quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive aussi. Et donc, c'est intéressant de se poser la question. Est-ce que c'est une compulsion pour éviter mes peurs ou est-ce que c'est mes besoins? C'est la question suivante, ou mes désirs, etc. Ok? Donc, qu'est-ce que ça m'empêche de vivre? Est-ce que, par exemple, je vais faire un burn-out parce que ça m'empêche de vivre? C'est-à-dire, je n'arrive plus à aller au boulot, je me sens mal, je ne me sens pas à ma place, j'ose pas dire non, je me fais marcher dessus, j'ose pas, donc j'ai peur de dire non, et ça m'empêche de vivre. L'expression de soi, la peur de dire non, la peur de changer les choses, hop, je suis burn-out et j'ai pas besoin de créer de changement. Et le changement, il est créé par le corps et par l'inconscient qu'on peut plus. Le conscient, il lutte, mais l'inconscient, il en peut plus, donc il crée quelque chose. Ok ? Et il y a tout le temps, quoi qu'il arrive, il y a tout le temps cette question-là. Est-ce que j'ai un genou, j'arrive plus à flexer à baisser le genou, qu'est-ce que ça m'empêche de vivre, de plus pouvoir plier le genou? Qu'est-ce que ça m'empêche de vivre de ne pas digérer ceci ou cela? Et est-ce que ça m'arrange pas? Tiens, toujours se poser cette question. Alors des fois c'est lié aux besoins, mais des fois c'est lié aux peurs. Première question, on se pose la question, est-ce que cela me permet d'éviter des peurs? Et en quoi est-ce que j'y trouve un équilibre, une stabilité confortable? Parce que là, c'est la peur du changement, de l'inconnu qui revient souvent. Donc en fait, souvent, il y a un changement qui arrive et je me fais une maladie ou une blessure ou quelque chose pour éviter ce changement. Et donc c'est ce que j'appelle le déni. Et je vais souvent accuser le passé parce que bah, ça m'arrange bien de ne pas évoluer vers le futur. Donc cette question, qu'est-ce que cela me permet-il d'éviter, elle est primordiale. Toujours se poser la question. Maintenant, bien sûr, en fait, on va pas se sentir coupable. Bien sûr, des fois, on se fout dans la merde juste parce qu'on a peur, mais en fait, c'est courant, c'est le fonctionnement de l'être humain, et c'est le fonctionnement de cette loi, et si vous découvrez ça, vous récupérez tout votre pouvoir personnel. C'est fou. Mais maintenant, il faut avoir cette tendresse de regarder ça en soi, de se dire, ok, ben, est-ce que je suis lucide, et est-ce que je vois qu'effectivement, j'ai créé ceci, j'ai créé cette maladie, parce que j'avais un équilibre en fait, c'est que la peur était là, la fenêtre c'était ça en fait. Au lieu d'ouvrir la fenêtre, c'est-à-dire de regarder ma peur, de la dépasser, d'apprendre à la dépasser, de me faire accompagner pour la dépasser ou que sais-je, bah, j'ai fui, j'ai fermé la fenêtre, je voulais pas avoir la peur, mais du coup bah, mon corps il a créé des champignons, ouais, c'est-à-dire il a créé quelque chose pour compenser l'équilibre qui manque, c'est-à-dire la ventilation. Donc cette question elle est primordiale et quoi que tu aies comme symptôme, pose-toi maintenant la question, ça va avancer, il va y avoir d'autres questions. Si tu n'as pas de réponse à cette question, peut-être que les autres te permettront d'y répondre, mais fais quand même pause et pose-toi sincèrement cette question. Le plus grand piège, c'est le déni. On ne veut pas voir, on veut pas se sentir responsable. Donc, et le conscient, il ne veut pas regarder ça. Donc essaye vraiment de jouer le jeu. Tu sais qu'on fonctionne tous pareil, que c'est pas plus toi qu'un autre, et que t'as pas à te sentir coupable si c'est le cas d'avoir créé quelque chose. Mais c'est parce que tu t'en rends compte que tu vas guérir. Donc si tu t'es inclus dans tu t'es lancé dans cette transformation avec les 10 lois de la guérison, bah t'es là pour jouer le jeu, t'es là pour apprendre. Donc nos culpabilités, on s'en fout, on joue le jeu. Voilà, qu'est-ce que ça te permet d'éviter? Et est-ce que ça ne te permet pas justement d'éviter des peurs, et notamment la peur de l'inconnu? Je te laisse répondre à la question, tu appuies sur pause, tu fais ça tout de suite. Ensuite, question 2. Donc, bah, la même chose, auquel de mes besoins ou désirs cela répond-il? Alors, ça c'est les bénéfices secondaires. Est-ce que en ayant un problème, ça me permet de répondre à un besoin? Je reparle du burn-out. J'ai besoin de repos, je ne le fais pas, je ne le prends pas. J'ai besoin de dire merde, je ne le fais pas. J'ai besoin de prendre soin de moi, de réfléchir à ma vie, à ce que je veux vraiment parce que je ne suis pas dans ma voie, je ne le fais pas. Bon, j'ai ce besoin, il est là, il est là, il est là. À un moment donné, burn-out, le corps, il tombe et il n'y a plus d'énergie. Et il te dit stop, tu vas devoir te mettre au lit là, t'allonger, arrêter d'aller bosser et maintenant te remettre en question et changer les choses. Ça c'est typique du burn-out, mais c'est typique pour toutes les maladies, encore une fois. C'est-à-dire, quels sont mes besoins? Quels sont mes besoins? Non, on en parlera dans la loi de la nourriture. C'est pas quels sont mes besoins, c'est auquel de mes besoins et désirs ce problème-là, ce mot-là, ce symptôme-là répond-il? Donc, quel bénéfice secondaire? Qu'est-ce que ça m'empêche de faire vivre, mais pour permettre de répondre à quel besoin? C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais qu'est-ce que ça m'empêche de faire vivre, mais pour éviter une peur. Mais là, pour répondre à quel besoin? Ça, c'est une question importante. L'idée, c'est du coup de réfléchir à tes besoins physiques, tes besoins émotionnels, tes besoins mentaux. Ce que je vais faire, enfin, la semaine prochaine, on parle de nos besoins. La semaine prochaine, c'est la loi de la nourriture, donc on va étudier vraiment quels sont nos besoins, que tu te connaisses vraiment, pour que tu puisses savoir définir quels sont tes besoins. Mais j'aimerais déjà que tu y joues le jeu sans être guidé, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, quels sont les besoins auxquels tu réponds? Est-ce que tu as du coup de la tendresse de ta famille? Par exemple, tu es une mère qui est trop occupée, qui s'occupe trop de tes enfants, qui fait trop de soucis, et au boulot, et avec tes enfants, etc. etc. Et à un moment donné, bam, tu as un truc, un accident, un arrêt, une maladie, qui permet que tes enfants prennent soin de toi, enfin, au lieu de te traiter comme une merde. Ça arrive à tellement de mamans. Donc, c'est-à-dire que les enfants sont souvent ingrats jusqu'à ce qu'il y ait une maladie, et donc souvent les mamans, au lieu de dire non, de se positionner, de prendre bien soin d'elles, elles donnent, et hop, elles tombent malades, et il y a un truc là à l'arrêt, et les autres, ou le couple, hein, peut-être c'est dans le couple que c'est pas les enfants, mais c'est dans le couple qu'il y a ce besoin-là, besoin de tendresse, besoin de me poser, besoin de reconnaissance, reconnaître que quand je suis plus là pour tout faire, ben les autres, ils se trouvent bien emmerdés, et ben du coup, j'ai créé une pathologie, un problème qui m'empêche de faire pour que les autres, pour rétablir l'équilibre, c'est toujours ça, c'est toujours un jeu yin-yang, toujours rétablir un équilibre, la vie, elle cherche à rétablir un équilibre, l'inconscient, si tant est qu'il existe, moi je m'en fous, hein, c'est pas tant l'inconscient, c'est la vie, en fait, c'est la vie, cherche à rétablir un équilibre, et donc la vie, de manière inconsciente en moi, rétablit l'équilibre. Pour moi, l'inconscient, c'est juste ce qui n'est pas conscient en soi, hein. Il y a plein de choses qui sont pas conscientes en soi. On le sait, plus on apprend à se connaître, plus on voit que ah ouais, il y a beaucoup de choses qui étaient inconscientes. Ok. Donc, pause. Réponds à cette question tout de suite. Quels sont les besoins physiques, émotionnels, relationnels? Quels sont les besoins mentaux de concentration, de pause mentale, d'apprentissage ou que sais-je? Qui aurait pu motiver inconsciemment la recherche de cet équilibre-là, et donc un symptôme. Si tu trouves ça, tu guéris. C'est tout le sens, en fait. Tu avais besoin de t'occuper de ce besoin plutôt que faire cette maladie. Si tu trouves ce besoin et que tu t'en occupes, tu n'as plus besoin d'avoir la maladie, donc la maladie va disparaître d'elle-même. Donc réponds bien à cette question. Et si besoin, ce genre de questions, tu peux te faire aider par des thérapeutes ou des amis, ou pour en discuter, pour échanger, parce que des fois c'est pas clair, justement, vu que c'est absolument inconscient et qu'il y a du déni. Mais là, joue le jeu, t'as compris où je veux en venir, donc maintenant t'es autonome et t'es ton propre médecin, appuie sur pause et réponds vraiment, vraiment à cette question, tout de suite. Maintenant, on passe à la question 3. Alors, il y avait les peurs, il y avait les besoins ou désirs. Maintenant, je parle des croyances ou opinions. Donc ça, c'est plus d'un point de vue mental, quelles sont mes croyances sur la vie ou les opinions que cela me confirme. Parce que rappelez-vous, je vous l'ai dit dès la première semaine, je pense, que mes croyances sont des prophéties autoréalisatrices. Je crée mon monde avec mes croyances. Et comme j'ai noté là, pour m'aider, voici des exemples de croyances qui peuvent nuire à ma santé. Par exemple, si je crois que la vie est dure et qu'il faut travailler dur, eh bien je vais avoir tendance à me tuer à la tâche. Et je vais avoir des problèmes de fatigue, des maux de dos, parce que je suis tout de suite comme ça toute la journée. Et ça ne révèle... Pourquoi ? Parce que je ne fais pas de pause. Mais pourquoi je ne fais pas de pause ? Qu'est-ce que ça dit de moi, le fait que je ne fais pas de pause ? Ben, ça dit que je crois que je n'ai pas le temps de faire de pause, que le travail c'est le plus important, ou que je ne vais pas y arriver, etc. Pourtant, on connaît plein de gens qui sont plus riches que nous en travaillant moins. Donc ce n'est pas une loi universelle qu'il faut travailler dur et se tuer à la tâche. C'est toi, comme tu crois à ça, eh ben, tu le répercutes dans ta vie, et du coup tu as de la fatigue parce que tu te tues à la tâche. Donc il y a toujours, derrière un symptôme, une croyance qui t'a amené à ce symptôme, une croyance qui te guide, qui filtre la réalité et qui t'amène du coup, comme tu ne peux pas passer par là, bah, tu passes dans le trou qui est là, et donc qui filtre le monde et tes comportements, tes choix, et qui t'amène à une chimie. Rappelez-vous, c'est pareil, les premières choses que je vous ai dites, nos pensées engendrent nos choix, donc nos pensées, elles découlent de nos croyances, hein, engendrent des choix. Les choix engendrent des habitudes, des comportements habituels, qui engendrent des expériences. C'est-à-dire, si on a fait ces choix, ben, ça crée forcément des expériences derrière qui sont différentes que si j'avais fait d'autres choix. Et ces expériences, elles créent ma biologie. Voilà, les neurosciences le prouvent. L'expérience, où que tu sois, quoi que tu fasses, ça crée des connexions neuronales, ça crée des circuits neuronaux, du coup. Ça crée des hormones, etc. Selon comment tu te tiens, quel choix tu as fait. Est-ce que tu as fait un choix de travailler à la maison, un choix de travailler pour quelqu'un, un choix... Tout ça, ça crée une biologie différente chez toi. C'est ça qu'il faut te rendre compte. Et les maladies sont contenues dans ta personnalité, dans tes choix. Donc, tes choix, ils découlent de tes croyances. Donc, quelles sont les croyances qui t'ont amené à ça, à cet épuisement? Quelles sont les croyances que tu ne peux pas t'exprimer, que tu serais viré facilement si tu disais que t'as trop de boulot? Quelles sont les croyances? On a tous des croyances, on a une lecture du monde. On se dit souvent, avec le problème avec les croyances, c'est ça. C'est tout le temps la justification de « mais c'est pas une croyance, c'est un fait ». Mais si tu trouves une seule personne qui ne vit pas la même chose que toi, c'est que c'est pas un fait. C'est toi, t'as ta croyance, tu dis « ah, le monde est comme ça, c'est un fait, tout le monde... » Voilà, de toute façon, il faut travailler dur, sinon, voilà. Et pose-toi la question sincèrement, est-ce que tout le monde travaille dur pour être riche et réussir? Ah bah non. Bon, donc c'est pas un fait, c'est pas une loi immuable de la nature, c'est une croyance. Pose-toi toujours cette question-là. Et malheureusement, il y a souvent, les croyances, on les justifie en disant que c'est un fait. Mais c'est pas un fait, c'est comme tu filtres, tu ne vois que ça. En général, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens à l'extérieur qui disent « Non, mais regarde, lui ou elle, il croit pas ça, il vit pas la même chose. » Mais nous, comme on voit la vie avec ces filtres que sont nos croyances, on ne voit que ça. On voit sur notre profil Facebook que des choses qui confortent ça, alors que dans notre mur Facebook, avec tout en scrollant, il y a plein d'autres choses qui l'infirment, mais ce qu'on regarde, les vidéos qu'on va regarder sur YouTube, c'est des choses qui confirment nos croyances, pas des choses qui infirment nos croyances. D'accord ? Si on commence à avoir un doute qui est instillé sur quelque chose, on va regarder des vidéos qui confirment ce doute. Pour changer peut-être des fois de croyance, on évolue doucement dans la vie. Mais c'est bien pour montrer. Après, on est en désaccord avec d'autres gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances. Et les croyances mènent à ta biologie. Donc c'est hyper important. C'est pour ça que là, j'ai mis un exemple de croyance, mais il y en a plein. Après, il y a la croyance « je suis faible, j'ai toujours été faible, on est tous faibles dans ma famille ». Bon, ça, c'est sûr que si tu as cette croyance-là, ou alors on ne peut pas guérir de cette maladie, ou c'est génétique, mon père, il avait ça, ok, ça veut dire que tu es victime et que tu ne vas pas pouvoir changer. Ton père, il ne t'a pas légué une génétique, il t'a légué une mémoire, une façon de penser, une façon de vivre, il t'a éduqué, il a, par ses réflexes, même si tu as voulu t'éduquer à l'inverse de lui, il t'a induit des réflexes de comportement pour se protéger du sien, ou alors puisque tu l'aimais fort et contraire ça matchait, tu fais comme lui. Mais en tout cas, il t'a légué non pas une génétique, parce qu'on sait aujourd'hui que la génétique, l'épigénétique, c'est une science qui montre que la génétique, elle n'est pas du tout primordial, qu'en fait elle va changer en fonction de ton environnement, de ce que tu vis, etc., que la génétique elle peut se modifier. Donc il n'y a pas de déterminisme génétique, il y a un héritage de croyances, il y a un héritage de choix, il y a un héritage émotionnel, il y a un héritage systémique aussi. Effectivement, tu vis dans la nature, tu vis à Paris, c'est pas la même chose. Il y a aussi un héritage qui te dépasse, mais c'est aussi tes choix. Qu'est-ce qui fait que tu restes là, que tu bouges pas, etc. Donc c'est des croyances, et ainsi de suite. Donc quelles sont les croyances et qu'est-ce que cela dit de toi ? Et ensuite, bah évidemment, ce sera d'autres lois qui diront comment je peux m'y adapter, par exemple, dans la loi de l'adaptation. C'est pour ça qu'on apprend beaucoup à se connaître avant de finir par la loi de l'adaptation. Mais parce qu'avant de s'adapter, il y a peut-être plein de choses à changer. Voilà. Et donc, les croyances, elle est révélée par la question. Elles sont révélées par la question. En quoi cela me permet-il d'avoir raison ? Et donc, soit d'accuser les autres ou d'accuser le passé. Parce que mes croyances, c'est ce que je crois être juste et vrai et sûr. Donc, est-ce que ça me permet d'avoir raison, d'avoir cette maladie et donc de confirmer ma croyance ? Ok ? Donc ça, j'espère que c'est clair. Évidemment, si tu as fait la Self Academy, par exemple, tu as déjà entendu plein de fois parler de ça, tu as approfondi ça, tu te connais déjà mieux par rapport à ça. Si c'est tout nouveau, refais ça et refais cette vidéo et refais cette semaine pour bien t'imprégner de tout ça. Mais c'est assez simple en fait. On a tous des croyances qui façonnent notre réalité, qui filtrent notre réalité. Et on regarde la réalité comme ça. Et nos croyances, comme on ne voit que ça, on ne peut pas faire le choix qui est là, puisque là c'est un filtre, on ne peut faire que le choix qui est là. Donc on passe ici, là où on pense que c'est possible. Et donc ce choix-là, comme derrière il façonne notre biologie, ben, on ferait mieux d'être au courant de ses croyances et de les maîtriser, de les connaître, être souverain. Donc, je te laisse répondre à la question 3, et donc appuie sur pause et fais-le tout de suite. Ensuite, on passe à la question 4. Alors, là, je ne pouvais pas faire un cours entier sur ça, mais est-ce que cela me parle d'un déséquilibre dans les 5 mouvements, les 5 éléments ? Ça, c'est l'onglet harmonisé dans l'appli mystique. On en parle aussi dans la Self Academy, j'en parle dans mes stages, voilà. Mais là, je pouvais pas, c'est long à expliquer. Mais ça permet, quand tu connais les 5 mouvements, de connaître par association, etc., de voir est-ce que ça te parle d'un déséquilibre. Tu peux aussi regarder. Alors sur Internet, on trouve rien de très approfondi sur le plan psychique et spirituel des 5 mouvements, mais on trouve beaucoup d'un point de vue physique. Donc tu peux dire, tiens, médecine chinoise, un problème de peau, bah tiens, ça te révélera que c'est l'élément métal en toi. Si, voilà. Mais bon, dans l'appli mystique, je rentre en détail là-dessus. Et puis il y a un test qui est prêt. Alors ça dépend quand tu regardes cette vidéo, mais bientôt il va sortir et tu pourras t'auto-tester, t'auto-diagnostiquer grâce au test qui est, donc cette question tu pourras y répondre avec le test qui sera dans l'appli. Mais j'ai beaucoup de choses à faire, mais ça arrive. Donc voilà, si tu sais faire, ben réponds à ça. Si tu sais pas faire, n'y réponds pas tout de suite. Ensuite, exercice 5. Le phénomène miroir symbolique. Alors là, on part dans l'intelligence symbolique. Vous voyez, il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence analytique, qui est le fait de découper le champignon en petites parties et d'en créer du coup une réponse chimique d'une petite partie. Donc là, on est vraiment dans l'analytique. La science et le monde moderne, il est très analytique, il analyse. Il y a l'intelligence systémique, on n'est plus dans l'analyse du tout petit, on est dans le grand, dans l'ensemble, dans les ensembles, on voit comment les systèmes interagissent entre eux et déterminent l'individu ou le petit. Donc la science essaye de s'y mettre, mais ils passent sur des petits systèmes, c'est-à-dire que quand ils étudiaient la cellule, maintenant ils étudient la cellule dans le foie, dans le système du foie qui est irrigué, qui est machin et qui est nourri. Mais comment on est nourri, avec quelle émotion, et selon quelle saison et tout ça, ils n'en sont pas là encore, ils ne sont pas dans des grands systèmes, ils sont dans des petits systèmes. Mais c'est déjà bien qu'ils s'y mettent. Et après, il y a l'intelligence symbolique. Et l'intelligence symbolique, elle parle directement avec notre inconscient. Et Dieu sait, depuis la psychanalyse d'ailleurs, Jung, enfin ça c'est en Occident, mais en fait, la puissance du symbole, elle est utilisée, elle était même culturelle avant que la pensée analytique arrive. Je veux dire, on va par exemple visiter le Pérou ou l'Égypte ancienne, on comprend bien que l'intelligence était symbolique et pas analytique, et qu'elle était effective. Et ça, on a oublié la force de l'intelligence symbolique. Bref, là on est dans le phénomène miroir symbolique, c'est-à-dire qu'on va se dire, ok, j'ai une inflammation par exemple, on va se dire, tiens, où et dans quel domaine et en quoi dans ma vie il y a comme une inflammation. C'est-à-dire qu'au lieu de rester juste sur j'ai une inflammation au coude, je vais me dire, dans ma vie, est-ce que je m'enflamme pas pour quelque chose ? Dans quel domaine, en quoi dans ma vie, il n'y a pas une inflammation, il n'y a pas un peu trop de chaleur. Si j'arrive pas à poser le genou à terre, et c'est une information symbolique, poser le genou à terre, c'est lâcher les armes. Est-ce que symboliquement, j'arrive pas à faire ça ? Des fois, dans le mot aussi, les mots ont un sens, et ils ont un sens symbolique, donc même s'ils disent pas la même chose dans une autre langue, ce qui compte, c'est dans notre langue, dans comment nous, on a symbolisé et comment notre intellect est façonné par le symbole qui est le mot. Parfois, je ne sais pas, il y en a qui disent, ok, c'est le lien entre le je et le nous, donc entre moi et l'autre. Est-ce que symboliquement, il n'y a pas un conflit entre le je et le nous ? Voilà, donc ça, c'est aussi une manière symbolique de se poser ces questions-là. Je ne sais pas prendre, et donc d'apporter du sens, et donc de participer à la guérison. Je ne sais pas prendre de direction, par exemple. Par exemple, j'ai une cheville qui je fais une entorse à la cheville, et j'arrive plus, et la cheville, du coup, elle n'arrive plus à bouger, elle n'arrive plus à s'orienter. Et bien, je me pose la question, est-ce que je ne sais pas prendre de direction en ce moment ? Est-ce que je mets de la tension dans ma manière de prendre une direction dans ma vie ? Comme par hasard. D'accord ? Moi, je me rappelle très bien, justement, quand ça faisait un moment qu'on disait, j'avais déjà acheté par exemple le dictionnaire des malaises et maladies, là, fameux, qui est assez connu. J'avais 25 ans peut-être déjà. Ça m'intéressait, je lisais tout ça, mais j'avais encore jamais trop tilté. Et un jour, je faisais un footing dans la forêt tout seul et je réfléchissais vraiment, est-ce que je fais de la musique, est-ce que je deviens thérapeute, est-ce que je fais de la musique, est-ce que je deviens thérapeute. J'étais vraiment dans ces doutes-là, parce que j'étais passionné par la musique, ça m'éclatait, mais tout ce que je lisais, ce qui m'éclatait encore plus, et qui était vraiment profondément moi, c'était la connaissance de soi. Et donc j'étais dans ce doute-là. Mais vraiment, pendant que je courais, je pensais à ça. Et d'un seul coup, il y a un chemin. Dans le chemin, je glisse, je me fais une entorse à la cheville. Donc il y avait un chemin physique, une direction à prendre, mais j'ai perçu, je me suis retrouvé à terre, je me suis en plus éclaté là tout seul dans la forêt, après il fallait que je rentre pendant 20 minutes en boitant, mais je me suis rendu compte qu'à quel point, effectivement, à ce moment même, j'étais en tension, en train de me dire quelle direction je prends, mais symbolique dans ma vie, et à ce moment même, il y avait aussi cette direction physique, et d'un seul coup, je pouvais plus, il y avait trop de tension dans ma cheville, et je me suis fait une entorse. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, là j'ai été conscient. C'est comme, c'est les habitudes inconscientes. Il y a toujours un stade où je suis conscient après l'avoir prise, et je me dis, ah oui, peut-être, et après pour la changer, il faut que je sois conscient pendant que je la prends, pour pouvoir faire un autre choix. Et là c'était ça, là j'arrivais au moment, où c'était flagrant que j'étais en tension par rapport à ma direction, et que je m'étais fait une entorse à la cheville. Mais parfois c'est plus inconscient et justement c'est tout le travail de la pleine conscience, tout ce qu'on fait du coup maintenant. Ok, donc par exemple un autre problème qui serait un problème aux mains, les mains elles me servent à faire quoi ? À prendre, à tenir, à donner, à recevoir. Est-ce que j'ai un problème à prendre, à donner, à recevoir dans la vie ? À recevoir quoi et comment ? Donc se demander en miroir, toujours en miroir. Et pas prendre les... Par exemple, si quelqu'un me parle mal, la question à se poser, c'est pas se dire, mais non, il n'y a pas de miroir, parce que moi, je ne lui ai jamais mal parlé. C'est pas ça, le miroir, c'est, est-ce que moi, je me parle mal ? ou est-ce et parfois, c'est-à-dire que la personne, elle me parle mal, elle a un miroir de moi, pas elle est pas un miroir d'elle. Donc c'est toujours se poser la question par rapport à moi. Quoi qu'il arrive, le miroir, on fonctionne toujours par rapport à soi. Donc c'est pas, faut jamais se dire bah tiens. Enfin, ce que je viens de vous dire, cet exemple, c'est-à-dire la personne, elle me parle mal, et voilà, vous avez compris, j'ai pas besoin de me répéter. Ok, donc ça, eh bien, pause, et vous vous posez cette question-là, et je peux que vous conseiller, par exemple, l'exercice du dictionnaire des malaises et maladies, enfin, d'acheter ce livre. Mais l'intérêt, c'est pas juste nourrir le mental, parce que le truc, c'est souvent, les gens vont lire, ils vont se dire, mouais. Non, c'est percevoir si inconsciemment, effectivement, au quotidien, il n'y a pas une tension. Il va vous dire, bah, vous vivez une tension sur la direction à prendre. Et puis les gens un peu fiers vont dire, bon non, peut-être, ouais, puis il passe à autre chose. Mais le but, non, c'est de vraiment éveiller un sens, et que vous plongiez dans le sens, et que vous écriviez, et que vous essayiez de voir si en vous, quelque part dans un domaine de votre vie, il n'y a pas... Parce que le livre, il vous donne des pistes symboliques, c'est intéressant. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a Michel Odoul, Dimo Tamal, je te dirais qui tu es, je crois que c'est un truc comme ça. Il y en a plein. Ça existe depuis la nuit des temps, et il y a des gens qui en ont fait des dictionnaires. Mais maintenant, voilà, utilisez ça pour apporter du sens, et si vous apportez vraiment du sens et que ça reste pas juste superficiel, eh ben vous apportez de la guérison. Donc jouez vraiment à ce jeu-là. Et ben voilà, appuyez sur pause pour le faire, ou programmez-le, de le faire plus tard quand vous aurez par exemple les livres pour vous aider. Exercice 3, et on arrive bientôt à la fin. Et bien là, c'est un exercice plus court, c'est exercer ma pleine conscience de détective, c'est-à-dire pendant des moments précis de ma journée, se dire par exemple pendant les repas, et bien. Je vais prendre note quotidiennement, à chaque pas, de ma posture. Comment je suis assis pour manger, ou pas, debout d'ailleurs. Comment je pense, comment est ma respiration, quelles sont mes émotions. Parce que peut-être je mange toujours à la cafette entre midi et deux, vite fait. Donc mon émotion, c'est un désir de vite retourner au boulot pour être efficace. Ou peut-être que c'est un désir de plaire à ma collègue qu'elle a. Ou peut-être que mon émotion, c'est merde, fais chier, j'aimerais être en paix et ça me saoule d'être dans cet environnement bruyant. Quelles sont les émotions tous les jours, là, pendant que je suis en train de manger. Quelles sont mes sensations, chaque zone du corps, chaleur, tension. Est-ce que j'ai froid? Est-ce qu'il y a un courant d'air? Des fois, c'est rien, parce qu'on se dit, c'est rien, un courant d'air. Ou peut-être c'est juste la clim qui est à fond. Et des fois, on se dit rien, mais à long terme, ça peut déprogrammer. Enfin, ça programme forcément des réactions d'équilibre. Donc, ces réactions d'équilibre, bah, si elles deviennent inconfortables, c'est les symptômes qui m'ont fait venir peut-être ici. À suivre cette vidéo. Et quelles sont mes intentions, quelles sont mes peurs, mes désirs, mes croyances. Donc en fait, quotidiennement, là, j'observe, donc je vais noter sur mon cahier le soir, donc ça c'est l'exercice d'après, quoi. L'exercice 4, c'est faire le bilan quotidien. Donc le bilan quotidien, c'est que je vais noter, bah tiens, pendant les repas, je vis ça, je ressens ça, voilà. Il y a d'autres moments dans la journée, il y a les moments quand je scrolle sur mon téléphone, par exemple. Ça c'est un truc qui est de plus en plus courant. Est-ce que je suis en tension? Est-ce que je suis trop absorbé? Est-ce que je suis plus concentré à ce que je voulais? Est-ce que je cherche la reconnaissance? Est-ce que je regarde avec l'intention d'avoir un like, et puis du coup, bah, j'en ai pas? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Pourquoi j'allume mon téléphone? Pourquoi je le regarde? Quelles sont mes intentions à ce moment-là? Et comment est-ce que j'ai une tension peut-être physique dans l'épaule? Est-ce que je le fais vraiment détendu? Est-ce que c'est le soir avant que de m'endormir que j'ai des tensions à regarder mon téléphone avec la lumière éteinte et à m'éclater les yeux avec mon téléphone? Ça, tout ça, c'est des petites choses qui créent à force des symptômes à long terme et qui s'accumulent avec d'autres. Alors si j'ai une bonne capacité d'adaptation, j'ai des bons yeux, une bonne énergie dans les yeux, que j'ai aucune tension dans les épaules, bon bah je vais m'adapter pendant longtemps et ça va rien faire. Mais si je suis affaibli par ailleurs, etc., les yeux étant justement dans la loi des cinq mouvements, une ouverture de l'énergie du bois, donc du foie, de la vésicule biliaire et tout, après on sait aussi avec la médecine chinoise et les cinq mouvements qu'il y a des liens entre les différents trucs, c'est-à-dire que je me fatigue peut-être pas les yeux, mais que je m'aperçois pas c'est que je fatigue mon bois, donc le côté conquérant en moi, donc le côté qui façonne sa vie et qui la crée, par exemple. Et du coup, je deviens plus passif. Et je m'en rends pas compte. Et donc, le but, c'est d'exercer. Et donc, en devenant passif et ensuite en ayant moins de désir et moins de conquérance en moi, de moins d'esprit de conquérant en moi, je vais peut-être, du coup, en souffrir et commencer à créer des symptômes. Et peut-être que, à la base, c'était juste que je regardais mon téléphone tous les soirs à m'éclater les yeux. Et c'est con, mais ça, la science physique, la science moderne, elle fera jamais le lien, donc elle peut pas le prouver pour l'instant. Mais on voit bien comment les causes s'accumulent et comment de l'un à l'autre, on va aller créer une pathologie qui va peut-être à rien avoir, mais qui a en fait à voir. Et du coup, ça, tu peux le faire que par ta pleine conscience. Tu peux observer que par ta pleine conscience comment tu détruis ta santé petit à petit. Si tu vois là, regarde, j'étais juste un instant là un peu affaissé. Heureusement, je ne le suis pas souvent. De temps en temps, je repose un peu, je suis un peu comme ça. Mais quand je suis comme ça, là, je respire moins, j'ai moins d'oxygène. Si tu fais ça pendant que tu manges ou que tu travailles toute la journée, tu as moins d'oxygène. Donc moins d'oxygène dans le cerveau, moins d'oxygène pour digérer, moins d'oxygène pour gérer tant de choses dans ton corps. Et si tu n'as pas assez d'oxygène, tu vas créer plein de problèmes du coup. Et tout ça, peut-être parce que juste tu te tiens mal. Et c'est con, mais oui. Et y compris, du coup, d'un point de vue concentration. Si tu n'as pas assez d'oxygène dans ton cerveau, tu peux moins te concentrer. C'est logique, mais ça, il faut que tu sois en pleine conscience et que tu saches le repérer. Donc, jouer au détective. Donc, pareil, sous la douche, aux toilettes, durant les trajets, quand tu retrouves tes enfants, quand tu retrouves ton partenaire, quand tu es tout seul chez toi et que tu es célibataire et que tu te morfonds et que tu aimerais bien quelqu'un qui te fasse des câlins, ou que sais-je. Tu vois, fixer des moments comme ça, tu observes avant de m'endormir, à quoi je pense. 80% des pensées quotidiennes sont les mêmes que la veille, 90%. Alors, globalement, si tu t'observes chaque jour sur des moments précis, tu vas voir que tu penses toujours la même chose sur ces moments précis, que tu te comportes, tu fais les mêmes choix, la même posture, etc., etc. Et donc, observe ça et observe si tu peux pas justement améliorer tout ça. Tu peux le faire que si tu es un détective. Et donc, exercice 4, c'est persévérer au quotidien. Donc, noter les résultats de l'exercice 3 tous les soirs et puis continuer les bons réflexes des semaines précédentes. Pratique de l'attention sur la qualité de nos pensées afin de rester focalisé et sur le sens positif de cette expérience de vie qui est en train de m'apprendre beaucoup de choses sur moi et contribue à mon plus grand bien. Ça, tu vois, c'est du sens en fait. Rester toujours focalisé sur le fait qu'il y a du sens, qu'il y a un sens positif à tout ce que tu es en train de vivre. D'ailleurs, peut-être le sens positif, c'est que tu es en train d'apprendre les 10 lois de la guérison, de découvrir tellement plein de choses sur toi, sur ta conscience, grâce peut-être aux maladies qui t'ont amené jusqu'à cette vidéo. Et puis peut-être que ça t'apporte tellement d'autres choses, de découvertes sur toi, d'approfondissement peut-être de tes liens, de te rendre compte que, au contraire, que les liens que t'as, ils sont pas suffisamment bons et qu'il vaut mieux que tu changes de partenaire. Enfin, ça t'apporte plein de choses en fait, cette expérience. Et si t'es focalisé sur la qualité de tout ce que ça t'apporte, t'apporte du sens. Donc vraiment, tu vois, tout ce cahier, tout cet exercice-là, il est là vraiment pour t'apporter du sens, te transformer au quotidien, joue vraiment le jeu. T'as les outils pour transformer ta vie. Je suis tellement nourri de te partager ça, moi. Je sais à quel point ça peut vraiment tout changer, donc vraiment joue le jeu. Allez, à tout bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.